Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la présentation du rapport pour une transition juste qui est basé sur une enquête co-réalisée entre les Amis de la Terre, l'Institut Veblen et l'Institut Rousseau. Ce rapport part du constat que la transition écologique va transformer en profondeur nos systèmes économiques et affecter des secteurs d'activité comme le secteur pétrolier et gazier et que cette transition ne peut pas se faire sans réaliser des propositions communes entre le monde du travail et les acteurs environnementaux, sans faire une transition juste. Donc pour comprendre les attentes des salariés du secteur pétrolier et gazier français et pour élaborer aussi des attentes vis-à-vis des acteurs publics, nous avons réalisé cette enquête. Anna-Léna, vous avez coécrit cette enquête avec Guillaume Compin auprès des salariés du secteur pétrolier et gazier pour comprendre leur vision et leurs attentes en matière de transition du secteur. Quelle vision ont-ils du changement climatique? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils veulent se reconvertir dans des emplois durables?
Oui, merci beaucoup Julien pour l'invitation et puis pour l'organisation de la table ronde. Pour revenir un peu déjà sur la genèse du rapport, enfin du coup tu l'as déjà un peu évoqué. Nous on partait aussi du constat, en fait ça fait 50 ans que les Amis de la Terre militent pour une transition écologique juste et on travaille no notamment beaucoup sur la sortie des énergies fossiles. Or, un des arguments qui revenait souvent, notamment de la part du gouvernement, mais aussi des parlementaires, c'était, bah, oui, mais il y a beaucoup d'emplois en France, dans le secteur des énergies fossiles, et du coup, on ne peut pas faire une transition, très rapide. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé, à ça. Donc, on a lancé cette enquête. Alors, pour répondre à ta question, du coup, oui, les salariés sont très concernés par le changement climatique. Il y en a 95% qui nous ont dit qu'ils estimaient que c'était un problème, très sérieux. Et après, mais ce qui nous intéressait vraiment, c'était pas tant leur vision du changement climatique en tant que tel, plutôt que comment ça affectait leur rapport au travail et est-ce que ça voulait dire qu'ils avaient peur pour leur emploi dans l'avenir, est-ce qu'ils voulaient se reconvertir, etc. Et surtout, on a fait attention à pas poser cette question en premier, c'est-à-dire qu'on leur a demandé est-ce que vous trouvez que le changement climatique est un problème sérieux, mais cette question venait après toutes les questions, notamment sur la crise du secteur et leurs envies de reconversion, puisque en fait, on présente souvent, il y a un peu cet argument qui circule que la transition écologique a un impact négatif sur l'emploi. Or, nous, quand on s'est intéressé au secteur pétrolier et gazier en général, on s'est aperçu déjà qu'il y avait en fait des destructions d'emploi. En fait, c'est un secteur qui subit une succession de crises depuis 2009 et en fait, il y a quasiment la moitié des effectifs qui ont disparu, enfin, qui ont disparu depuis, du coup, notamment dans le secteur pétrolier, enfin, parapétrolier ou paragazier. Et du coup, l'approche, c'était aussi de comprendre bah, leur vision de la crise. Et du coup, pour répondre à la deuxième question, est-ce qu'ils ont envie de se reconvertir? Et bah, là, on ne s'attendait même pas à un résultat aussi important, mais il y en a 79% qui veulent effectivement se reconvertir. Ils sont majoritairement intéressés plutôt par le secteur énergétique. On pourra parler plus tard du coup de quel secteur de façon spécifique. Mais on observe aussi des différences en fonction du niveau hiérarchique, en fonction du type d'entreprise et en fonction aussi de l'âge et dans l'ancienneté. Et donc, par exemple, en fait, on s'aperçoit que les cadres et les ingénieurs ont une proportion plus importante à se reconvertir que les ouvriers et les employés. Même si les ouvriers et les employés sont quand même 65% à vouloir se reconvertir, c'est quand même 14 points sous la moyenne générale des répondants. Donc voilà, en fait, ça nous a permis de dégager un peu une analyse globale de la volonté de reconversion et des freins aussi à cette reconversion qu'on pourra du coup élaborer plus tard. Suite à cette enquête, nous, notre conclusion, c'est en fait, les salariés, ils sont informés, ils sont volontaires pour analyser les dynamiques du secteur actuel et comment le transformer. Et en fait, ils sont pas du tout un obstacle à la transition. Au contraire, ils peuvent être moteurs de la transition à condition que leur avis soit pris en compte.
Je vous propose de faire un peu de tour de réaction sur la base de ces résultats.
Moi, je me présente donc Thomas Godin. Je suis économiste à la direction exécutive recherche et prospective de l'ADEME et je m'occupe de façon générale de la thématique emploi lié à l'environnement. Donc, avant de réagir hein, sur le document, je préfère expliquer d'un peu d'où je parle parce qu'il y a que j'ai une place particulière dans cette affaire, puisque l'ADEME, donc c'est une agence de la transition écologique, c'est une agence qui est le bras armé du ministère de l'écologie, avec aussi un petit peu de la tutelle, c'est aussi le ministère de la recherche pour une centaine de postes. L'ADEME a sorti sur son site, vous pouvez trouver, il y a une feuille de route emploi, qui explique notre point de vue sur la façon dont on veut travailler le sujet emploi, qui est un sujet absolument immense. Nous, enfin, sur la thématique emploi à l'ADEME, on est très très peu, hein, donc 20 fois moins en proportion du RAC, compte tenu des effectifs de l'ADEME. Et oui. On n'est pas, alors je vais dire tout de suite pour éviter qu'il y ait des demandes inutilement adressées dans notre direction, donc on n'est pas un acteur de l'emploi, on n'est pas le pôle emploi de l'environnement, on n'est pas non plus un agent de conseil pour l'orientation professionnelle, scolaire. On a aussi des demandes qui nous arrivent parfois par ce biais-là. Et on n'est pas du tout expert en matière d'insertion sociale, de reconversion. Ce n'est pas notre champ de compétences, de légitimité. Par contre, mon activité personnellement, c'est justement de brancher les acteurs de l'environnement et les acteurs de l'emploi qui s'occupent de tout ça pour essayer de faire avancer non pas l'emploi, mais la transition écologique, puisque moi, je ne suis pas payé par le ministère de l'Emploi. Donc c'est un regard assez spécial que je peux porter. Pour revenir sur cette feuille de route, quand même, pour encore expliquer un peu plus notre point de vue, les deux gros problèmes qu'on identifie, parmi une milliard, plein d'autres problèmes, et c'est vraiment deux qui sont structurants pour l'action de l'ADEME, c'est que régulièrement, la transition écologique reste pointée du doigt comme étant destructrice d'emplois, ce qui est faux globalement au niveau macroéconomique, et on a des travaux qui le démontrent. Je pourrais détailler des choses par rapport à ça tout à l'heure. Et puis, l'autre problème, c'est qu'on a toujours des questions de pénurie de compétences liées à la transition écologique. Donc, en particulier dans le bâtiment, mais aussi d'autres secteurs où, faute d'organisation, du partage des anticipations, on a des objectifs qui sont freinés du fait de difficultés à avoir les compétences en face du besoin. Et donc, on travaille cette feuille de route. Donc, deux problèmes, deux axes pour attaquer l'affaire. L'axe sur la question des pénuries de compétences, en fait, on le subdivise en deux sujets. Il y a un sujet qu'on traite de façon à part, qui est celui du bâtiment, parce que c'est un sujet stratégique en termes d'enjeux, d'emploi, d'enjeux énergétiques. Donc là, il n'y a pas photo. Mais en même temps, c'est un sujet singulier, c'est-à-dire que les enseignements qu'on peut tirer de cette approche sont peu utiles aux autres secteurs, parce que c'est un sujet qui est intra-branche. C'est vraiment dans la branche du bâtiment que ça se joue, puis c'est vraiment un sujet national, pour le coup. Alors que les autres sujets de la transition écologique, la plupart du temps, ce sont des sujets multibranches, transbranches, et qui ne sont pas que liés au territoire, qui s'inscrivent vraiment dans l'économie mondiale. Mais même, encore, certains me diront, oui, le bâtiment, les matériaux, etc. Oui, ils ont raison. Mais bon, pour simplifier, on a ces difficultés à attaquer les autres sujets. Et donc, on est en train d'y travailler avec le ministère de l'Emploi, avec le CEREC, avec le CGDD, qui est le ministère de l'Écologie. Avec France Stratégie, on est en train de réfléchir pour voir comment construire, quelles sont les conditions, en tout cas, pour réussir un projet d'accompagnement des compétences de la transition écologique. Donc, évidemment, le sujet m'intéresse beaucoup, mais sachant que sur la question du premier volet de la feuille de route qu'on s'est donnée, en termes de légitimité, on n'a pas tous les leviers entre nos mains. C'est-à-dire que la capacité à accompagner les reconversions, à bien les anticiper, c'est d'abord une prérogative, non pas de l'État déjà, mais des partenaires sociaux et de l'État. Et côté État, c'est pas le ministère de l'Écologie, c'est le ministère de l'Emploi. Et donc, l'enjeu, c'est de pouvoir organiser les lieux de discussion pour pouvoir répondre aux difficultés qui doivent être anticipées. Moi, je pourrais développer un peu plus, mais peut-être juste dire un mot. C'est le mot transition écologique, c'est un mot ambigu. Donc, à mon avis, on va retrouver ces difficultés dans le sujet des reconversions. C'est qu'il désigne à la fois des choses qui sont certaines, ou en tout cas qui sont calées, des objectifs quantifiés, délimités dans le temps, évaluables et contrôlables. Après, il y a des choses qui sont, il y a des objectifs, mais ce sont des grands objectifs qui ne sont pas traduits en activités, donc qui ne sont pas opérationnalisables très directement en termes d'emploi, de compétences, de formation. Donc, c'est une zone un peu grise. Et puis ensuite, il y a les sujets qui ne sont pas stabilisés, où c'est encore des débats, et donc l'ADEME sort des scénarios, donc il y a quatre scénarios, donc voilà, lesquels vont émerger, si tant est que ça soit l'un des quatre qui émerge. On peut aussi avoir le pire des scénarios, si aucun des quatre n'émerge, mais donc il y a des points de discussion, et donc quand on discute avec les acteurs de l'emploi, du point de vue de la méthode, déjà il y a un conseil que je donnerais pour avancer derrière le rapport, c'est de ne pas mélanger les discussions où on discute des objectifs, et les discussions où l'objectif est bien clair, mais le problème, c'est comment on atteint l'objectif. Et si vous mélangez les deux discussions, c'est forcément celle sur les objectifs qui va aller manger celle sur les moyens d'atteindre les objectifs. Et donc, ça va relayer tout ce qui est un peu concret, ressources humaines, emplois, compétences, etc. Et donc, il y a un travail de balisage à faire entre ce qui est stabilisé et ce qui ne l'est pas. Voilà, c'est un des éléments du puzzle, mais il y en a plein d'autres.
Céleste, vous êtes au réseau Action Climat qui fédère un certain nombre d'associations qui travaillent sur le sujet. Quelle est votre position et quels axes de réflexion vous menez sur le lien entre climat et emploi?
Effectivement, au réseau Action Climat, on est la tête de réseau de 26 associations nationales qui ont toutes pour objectif de lutter contre le changement climatique, et donc notamment les Amis de la Terre. Et sur ces questions d'emploi, ça fait déjà un petit moment que, au niveau national, donc Anna-Lena l'a évoqué tout à l'heure au tout début de son intervention, mais la question d'allier climat et justice sociale, elle est centrale pour les ONG environnementales depuis déjà quelques années. Pour nous, c'était important de créer un poste dans notre structure qui puisse traiter spécifiquement des questions de l'emploi. Effectivement, c'est un sujet qui est extrêmement vaste et on peut parfois se dire qu'on ne sait pas forcément par quel côté le prendre. En tout cas, du côté des ONG environnementales, c'est pas forcément évident. Et justement, enfin, ce travail des Amis de la Terre sur le secteur pétrolier et gazier, c'est vraiment extrêmement utile et bénéfique pour faire avancer des discussions qui peuvent parfois paraître très macro, qui n'ont pas vraiment d'ancrage dans la réalité pour les gens. Et en tout cas, moi, sur mon poste, la question de la reconversion, c'est quelque chose que je vais essayer de creuser, peut-être essayer de dépasser le secteur du pétrole et du gaz, même si, bien sûr, il y aura toute une discussion à faire vivre autour de ce rapport dans les mois à venir, pour essayer de faire essaimer ces réflexions entre acteurs environnementaux et acteurs de l'emploi, mais également partenaires sociaux dans d'autres secteurs d'activité qui seraient particulièrement concernés par cette transition juste. Et donc, voilà, effectivement, c'est un sujet qui nous semble central. C'est pour ça que mon poste existe, parce qu'on considère qu'il va y avoir du boulot dans les années à venir. Et pour revenir sur la question qui démarrait un petit peu cette discussion autour de la conscience que les salariés ont du changement climatique, je trouve ça vraiment intéressant ce que raconte le rapport. Et ça permet de mettre un petit peu en perspective une espèce de double dimension autour de cette prise de conscience des liens entre son emploi et la crise écologique. C'est que on a tout un discours qui vit en parallèle beaucoup dans le débat public, qui est de la perte de sens des salariés dans leur travail, de à se demander finalement à quoi cette activité professionnelle elle contribue. Et je pense que ce débat n'est pas forcément le même que celui des salariés qui travaillent dans un secteur qui, pour le coup, va vraiment être visé par les objectifs de décarbonation au niveau national. Enfin, pour moi, c'est pas à mettre sur le même niveau. Des personnes qui vont directement être touchées dans leur secteur d'activité par potentiellement une fragilisation de l'activité dans les années à venir. Et en parallèle, tout ce débat qui est en train de prendre beaucoup de place, qui est est-ce que mon travail a du sens ? Enfin, c'est pas forcément le même type de profil qu'on va retrouver derrière. Je sais pas si, Anna-Lena, toi, c'est quelque chose que tu partagerais comme analyse, mais je trouvais important de faire la distinction. Et puis après, juste pour terminer sur ce point, j'ai aussi cette impression, et peut-être que la CFDT pourra en dire un mot, qu'il y a maintenant des groupes de salariés qui s'organisent pour porter ces questions environnementales et de transition écologique dans les entreprises, que ça, c'est quelque chose qu'on voit arriver beaucoup plus fortement ces dernières années, peut-être encore plus avec la crise sanitaire, et que c'est, là encore une fois, extrêmement important que ça vienne aussi des salariés eux-mêmes et qu'ils puissent faire émerger ces discussions dans leur boîte. Voilà.
Pour répondre à la question, je vais prendre un peu à l'envers de la précédente intervenante, il y a effectivement des groupes de salariés, notamment sur des réseaux sociaux d'entreprise comme Yammer, comme tous ces outils-là, qui se constituent. Et ça, c'est très révélateur de plusieurs populations de salariés qu'on peut distinguer dans le cadre du sujet évoqué. On a pu constater que les nouvelles générations de salariés ne se sentaient pas concernées de la même manière par leur emploi et qu'il y avait une très, très forte appétence vis-à-vis des valeurs véhiculées par leur employeur. C'est aussi ça qui nous donne beaucoup d'espoir sur la possibilité de résilience des entreprises du secteur de l'énergie dans le cadre de la transformation globale, et aussi de se dire cette population-là sera peut-être la moins gênée par ce qui nous bloque historiquement dans le redéploiement des salariés dans le cadre de pareilles réformes. Aujourd'hui, ce qui bloque dans le monde de l'énergie, c'est en tout premier lieu le socle social. On a trois socles sociaux différents dans le monde de l'énergie. On a le statut des industries électriques et gazières. On a la convention collective du pétrole et les socles d'entreprises associées. Et puis, on a la convention collective du Syntec. Bien évidemment, que cela représente un frein à la mobilité inter-entreprises. Au sein des entreprises, généralement, enfin, il y a peu de toutes petites entreprises laissées à leur propre sort dans les secteurs du pétrole et du gaz, hormis dans le négoce pétrolier, en gros, les livreurs de fioul qu'on a à la maison, les livreurs de fioul, les livreurs de gaz. Généralement, ce sont des grosses entreprises, des gros groupes qui sont structurés à l'interne pour favoriser ces redéploiements. Par contre, quand il s'agit de changer de secteur d'activité d'employeur dans le monde de l'énergie, c'est très compliqué. Il y a des systèmes de retraite différents. Et tout le monde sait bien que dans le monde des retraites, 1+1, ça ne fait jamais 2. Voilà, il y a de très grosses pertes en ligne. Il n'y a pas de possibilité comparative pour les salariés qui souhaitent bouger, par exemple, se redéployer sur le secteur du renouvelable, qui aujourd'hui, on est tous obligés de le constater, c'est l'avenir, l'énergie renouvelable. Et bien pour autant, un salarié du pétrole ou un salarié des industries électriques et gazières aura beaucoup de mal à aller vers ces énergies renouvelables, puisque le socle social déjà est complètement flou. Il y a très peu de personnes qui sont en mesure d'expliquer et de montrer le point de chute. Et puis, ils se retournent vers nous, puis nous, on leur explique que malheureusement, va falloir passer à une négociation salariale de très, très haut niveau pour pouvoir compenser les pertes. Et ça, c'est un vrai sujet. Mais parallèlement à ça, encore une fois, il y a une nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail, qui se soucie de moins en moins de ça et qui se dit « ben moi, je suis plus intéressé par les valeurs de mon entreprise. En gros, si vous voulez rester une entreprise polluante, je fais un an ou deux chez vous, je m'en vais, je vais voir ailleurs. Peu importe ce que ça engendrera derrière, une population bien plus mobile. » L'avenir est là. L'avenir est sur ces populations-là. Il faut qu'on y travaille. Et puis, oui, je partage les résultats de votre enquête sur la perception qu'ont les salariés de cette transition. Tous les salariés du monde de l'énergie en sont convaincus. J'ai eu beaucoup d'échanges avec des salariés de grandes majors pétrolières, mais également gazières, hein, dont je suis issu d'ailleurs. Et tout le monde est convaincu qu'il faut qu'on aille vers autre chose, une autre énergie propre. Le gros souci qu'on va avoir, par contre, pour la transformation des énergies, c'est un souci de temporalité, puisqu'on ne peut pas aujourd'hui transférer à brûle-pourpoint des salariés de ces énergies-là vers d'autres énergies sans un accompagnement qui peut durer parfois plusieurs années, des formations qui sont très pointues. Enfin, quelqu'un qui est aujourd'hui un opérateur gazier ou un opérateur pétrolier va avoir un peu de difficulté quand même à se voir confier des missions sur un parc éolien, peut-être offshore, une ferme solaire, un site de biogaz. Enfin, tout ça s'accompagne. Et malheureusement, mais il y a aussi le souci économique derrière, beaucoup d'employeurs préfèrent recruter directement pouvoir mener à bien leur transition, voire même l'accélérer. Donc, voilà, aujourd'hui, il y a des filières d'enseignement qui commencent à être matures en la matière. Donc, les employeurs recrutent, ce qui a une tendance fâcheuse à laisser ceux qui ont envie de se redéployer un peu sur le côté. Voilà. Et là, on a aussi, nous, notre rôle en tant qu'organisation syndicale sur le sujet. Là, le dialogue social prend toute sa dimension. Merci.
Merci pour votre intervention. Vous montrez bien à la fois le désir de reconversion et la prise de conscience des enjeux par les salariés, mais aussi le défi que la transition écologique pose en termes d'emploi. J'aimerais me tourner vers Antoine Godin pour avoir les grands enjeux justement économiques posés par la transition. Est-ce que la transition écologique fait perdre des emplois ou en fait gagner? Quelles sont les principales prédictions de l'ADEME?
Enfin, je peux répondre indirectement à la question. Donc, globalement, on a des chiffres qui ont été faits par mes collègues macroéconomistes à partir des quatre scénarios que la transition 2020-2050 que l'ADEME a sorti. Ça améliore. Il y a un scénario des quatre, le premier qui fait un peu baisser le niveau d'activité et un peu donc l'emploi, mais tous les autres font augmenter légèrement l'emploi. Mais ça reste. Je m'occupe de l'emploi depuis 20, enfin, des années, mais il faut quand même relativiser les choses. Je ne voudrais pas lâcher non plus le sujet de ce soir qui est vraiment centré sur un sujet précis qui pour le coup est… mais tout le problème, c'est la finesse. L'emploi, ce n'est pas liquide, ce n'est pas des vases communicants, c'est pas de, les… Et à chaque fois, ça demande d'aller énormément dans le détail. Le problème, c'est avons-nous les moyens d'aller dans le détail et comment on organise les discussions dans le détail et avec quelle échéance, etc. L'ordre de grandeur que j'ai en tête, c'est ce chiffre tiré d'un bouquin de Cahuc et Zilberberg qui s'appelle « Les ennemis de l'emploi », qui dit « Chaque jour en France, vous avez 10 000 postes de travail qui sont créés, 10 000 qui sont supprimés, et en mouvement de main-d'œuvre, vous avez trois fois plus. » C'est-à-dire des gens qui passent d'un poste à plein temps, enfin en CDI à un autre CDI, ça fait un mouvement. Donc, il faut multiplier par trois pour avoir une idée des mouvements de main-d'œuvre. Chaque jour, 30 000 plus, 30 000 moins, avec un petit écart qui fait la variation du chômage. Donc, après, c'est pour ça que il faut regarder avec la pyramide des âges aussi. Après, il faut regarder par rapport à la dépendance au territoire. Il faut regarder il y a des endroits qui sont plus ou moins syndicalisés. Donc, plus ou moins, ce qu'on m'a dit, c'est que les pétroliers, du côté des sous-traitants, des parapétroliers, c'est pas du tout pareil. Enfin, donc, un ami à moi qui a lu le rapport, hein, j'ai fait lire, parce qu'il est dans le secteur, il me dit, mais attention, faut pas nous mettre tous dans le même sac. Chaque chose est différente. Les à-coups des investissements, ça touche très fortement le secteur parapétrolier, mais c'est pas pareil pour les exploitants, évidemment. Donc ils sont pas dans les mêmes positions. Et même du côté du marché du travail, vous avez beaucoup de contractuels. Donc ça demande beaucoup de finesse, de aussi la question des identités est assez importante. Donc on peut se sentir d'abord lié, solidaire d'abord d'un territoire, quelle que soit l'échelle d'ailleurs, ça peut être l'échelle du bassin d'emploi, ça peut être aussi l'échelle nationale, puisque quand des cadres sont sont bien diplômés, la mobilité géographique au sein de la France ne pose pas de problème. Par contre, pour des personnes qui sont moins qualifiées, ça peut être plus compliqué. Il y a des vies de famille, de salaire, etc. Donc, la mobilité, c'est pas pareil. Donc, il y a l'attachement au territoire d'un côté, puis il y a aussi l'attachement à la technologie, à ce qu'on manipule, l'objet. Donc, on peut être passionné par le système, quand bien même le système n'est pas très bon pour l'écologie, mais très mauvais. Voilà, on peut quand même se passionner pour l'outil technique et y trouver du sens quand même. Donc, et c'est la difficulté. Pour moi, la difficulté, c'est d'arriver à avoir une vision. Pas une vision justement, mais des visions cohérentes des avenirs, des personnes, du secteur, des entreprises, c'est pas la même chose, des sein d'une entreprise, des sein du secteur, c'est pas pareil, dans une cohérence par rapport à ce qui se passe au niveau mondial. Parce qu'en fait, la particularité de ces activités-là, c'est qu'elles sont complètement liées au reste du monde. Avec ce petit warning quand même qui m'a été signalé au passage, en me disant, mais par contre, cet ami en question qui m'a fait son retour sur le rapport, hein, donc un retour terrain pour le coup, mais me dit, mais moi, je demande rien à l'État. Par contre, un truc qui me gêne, c'est les à-coups de la politique publique sur les autres secteurs porteurs de la transition écologique. Et donc, il y a effectivement un besoin de stabilisation, des anticipations, des investissements, que des débats qui sont encore en cours, notamment on voit sur le nucléaire, mais voilà, que ces débats soient tranchés pour que les gens puissent se projeter sur un avenir. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est que l'écart entre le destin individuel, le destin des secteurs et le marché du travail, ces destins peuvent être très liés ou complètement déliés. Vous pouvez avoir un secteur qui est en décroissance avec des tensions de recrutement sur le marché du travail parce que la démographie est telle que les gens sont partis plus vite que le secteur ne décroît et donc on a un problème quand même de recrutement. Donc il y a plein de, quand on descend à la finesse des trajectoires des personnes, c'est vraiment un autre niveau. Donc le problème, c'est qui doit gérer cette finesse. Et si je reviens moi à ma grille de lecture qui est comment faire en sorte que les gens ne reprochent pas à l'écologie leur destin professionnel. C'est ça, il y a une définition dans le rapport de transition juste qui est précise, en fait. Hein. C'est pas juste, c'est une définition plus concrète. Hein. C'est pas simplement les grandes théories à la Rawls ou je ne sais quoi. C'est vraiment, ça c'est intéressant. D'ailleurs, j'invite les gens qui nous écoutent à lire le rapport dans le détail, parce que c'est vrai. Au-delà du résumé, voilà, il y a vraiment du contenu et de la matière. Voilà, j'ai perdu le fil du coup de ce que j'étais en train de vous raconter. Voilà, mais donc oui, le problème c'est comment on arrive pour arriver à avoir cette finesse. C'est extrêmement, faut déjà avoir envie. Et donc c'est vrai qu'il y a des sujets qu'on voit, voilà, la question interprofessionnelle, les régimes de retraite entre secteurs, etc. Bah, il faut qu'il y ait des lieux de discussion qui se construisent pour les rendre possibles. Vous avez notamment une instance qui, à mon avis, est sous-utilisée, qui est le CNTE, Conseil national de la transition écologique, qui est l'ancien comité de suivi du Grenelle, où vous avez les acteurs, l'État et les acteurs sociaux au niveau interprofessionnel. Ça pourrait être l'occasion de les inciter à prendre en charge ce type de questions. Et puis, de l'autre côté, puisque le sujet est mondial, moi, je ne sais pas quels sont vos contacts syndicaux, mais je pense qu'on a besoin, face au GIEC, les COP, etc., on a besoin de scénarios convenus. Alors, ça pourrait être fait avec le Bureau international du travail, ça peut être fait avec la Confédération européenne des syndicats et la CSI. Donc, voilà, il y a un enjeu de partage des anticipations pour que il y ait un volet scénario ressources humaines autrement plus charpenté que ce qu'on fait pour le moment, adossé au scénario de qu'on vise pour atteindre les objectifs des accords de Paris. Je biaise un peu le sujet parce que j'oublie pas, il y a la biodiversité, il y a d'autres sujets, mais je biaise parce que je suis à l'ADEME et la biodiversité n'est pas le nucléaire, la biodiversité, l'eau et les paysages ne sont pas dans le champ de compétences de l'ADEME. Donc c'est pour ça que je biaise, mais bon, voilà, élargissez ce que je dis au reste pour l'écologie. Mais en tout cas, c'est un peu l'enjeu, c'est d'avoir des instances de dialogue qui se réactivent quand elles sont un peu désactivées ou qui se créent si elles ne sont pas créées. Et c'est l'enjeu d'avoir une cohérence sans être dans l'idée d'un système totalitaire où on aurait un scénario où on dit les gens, vous êtes dans telle case, vous allez dans telle autre case. Il y a du jeu entre. Donc, on a besoin d'avoir des visions mésoéconomiques partagées avec la dimension des territoires. Et donc, vous voyez que c'est du travail, mais ce n'est pas un travail infini, mais c'est simplement qu'il faut que les gens acceptent qu'il y ait des lieux d'expertise qui se créent, qui ne soient pas de l'aide à la décision, mais simplement de l'aide à la réflexion, comme on a là, finalement. On a des retours, on ne donne pas des solutions, là, on dit. Mais on a besoin de développer très considérablement ces lieux d'expertise au-delà de l'expertise des branches professionnelles qui ont besoin, qui sont indispensables aussi. Mais il faut aussi être un cran au-dessus, avoir beaucoup plus d'expertise au niveau interprofessionnel pour l'ensemble des branches, pour avoir une vision des trajectoires professionnelles des gens, si on veut que les personnes dont le destin est bousculé par les changements ne viennent pas se retourner et contre la transition écologique, sachant que, je dirais, dans peut-être la majorité des cas, ce n'est pas la transition écologique qui est en cause. C'est d'autres sujets, c'est la mondialisation, c'est la délocalisation, ça a été pointé d'ailleurs dans le rapport. La part de responsabilité de la transition écologique dans les changements d'emploi et d'économie, etc., elle reste pour le moment faible. Quand on a les calculs les chiffrages de l'Observatoire des emplois verts, qui s'appelle l'Observatoire national des métiers et emplois de l'économie verte, on arrive à 15%. Donc, au maximum, les métiers directement liés à la transition écologique ou impactés par la transition écologique, on arrive à 15% du total pour le moment. Donc je dirais que le ratio pour s'intéresser aux mouvements de main-d'œuvre, aux reconversions, c'est que pour un côté transition écologique, il en faut 7 du côté économie générale pour prendre en charge la question. Donc, voilà.
Merci pour votre intervention. Et un point qui a particulièrement attiré mon attention est l'idée que les scénarios s'intègrent dans un débat démocratique beaucoup plus large, de toute façon sur les choix industriels que nous allons faire dans le cadre de la transition écologique. Et c'est un point qu'il faut souligner. Ce rapport s'intègre justement dans cette démarche-là. Anna-Lena, j'aimerais vous demander, dans l'enquête, quels sont les secteurs qui ont été mis en avant par les salariés dans leur volonté de reconversion et dans quelle mesure ils envisagent plutôt une mobilité interne ou une mobilité externe, ou voire aucune possibilité, enfin, voire ils ne pensent pas pouvoir se reconvertir en fait. Parce qu'on sent qu'il y a un désir de reconversion, mais quelles sont les possibilités pour eux-mêmes en tout cas?
Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais bien rebondir sur plein de choses qui ont été dites. Céleste a abordé la question du sens du travail. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui ressortait dans les résultats. On avait demandé aux répondants d'évaluer comment ils choisiraient leur secteur de reconversion en fonction de différents critères, notamment la mobilité. Est-ce qu'ils étaient prêts à changer de région ou est-ce qu'ils avaient un ancrage territorial fort un des critères qui ressortait le plus, c'était j'ai envie d'un métier qui a du sens pour moi et pour la société. Et associé à cette réflexion, pour moi, il y a aussi... On parlait du concept de transition juste et de l'importance d'aller consulter les premières personnes concernées. Je me suis plongée notamment dans les archives sur la reconversion de la raffinerie de Dunkerque. Et ce qui ressortait beaucoup aussi, c'était une perte de sens dans la reconversion parce que il y avait une perte de compétences. En fait, ils avaient la sensation, la raffinerie, elle était en partie reconvertie en dépôt pétrolier. Et il y avait un salarié qui disait, moi, j'ai l'impression, en termes de compétences techniques, d'être passé du pilotage d'un Airbus A380 au pilotage d'un ULM. Et en fait, que c'était une régression technique très difficile à vivre. Là, actuellement, il y a la raffinerie de Grandpuits qui est en cours de reconversion et il y a un peu les mêmes échos chez les salariés. En fait, qui se posent des questions sur les nouvelles activités, de quelle est la place de leurs compétences là-dessus, parce que en fait, les métiers du pétrole et du gaz, c'est des métiers à très très haute compétence technique et c'est des métiers passionnants. Et du coup, évidemment que en fait, ils ont envie de se reconvertir dans des secteurs qui les intéressent. D'où pour moi aussi l'importance d'aller consulter les personnes. Pour revenir un peu déjà sur notre définition de la transition juste et pourquoi du coup on a aussi mené cette enquête, il y a le fait tout simplement que ces personnes sont les premières concernées par la transition. Donc il y a une question d'expérience et d'expertise en fait du secteur. En fait, c'est les personnes les plus à même d'identifier les besoins que elles ont en termes de reconversion. Et elles ont aussi une analyse du secteur. Il n'y a pas besoin d'être dans les plus hautes instances dirigeantes de Total pour avoir un avis sur la question. Et c'est aussi une question démocratique de juste en fait, ces personnes ont le droit d'être impliquées dans la planification de leur futur, en fait. Enfin, c'est normal de les consulter, ça devrait être normal. Et après, il y a un enjeu tout simplement en pratique, qui est que, en fait, si on veut construire des trajectoires désirables pour les personnes dans lesquelles elles se projettent, en fait, on n'a pas d'autre choix que de les consulter pour leur demander ce qui les intéresse aussi. Du coup, Thomas nous expliquait qu'il y a le souci de temporalité dans la reconversion, et notamment, mais peut-être que ça, j'y reviendrai après quand on parlera des freins. Mais il y avait cette question de à quel degré de finesse on est prêt à aller pour analyser les besoins de transition, de reconversion. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti de l'enquête. Dans l'enquête, on a aussi ajouté des paramètres sociaux. On leur a demandé pour quel type d'entreprise ils travaillaient. Est-ce que justement, c'est une entreprise plutôt comme Total ou Engie qui du coup sont les producteurs et fournisseurs d'énergie, ou est-ce qu'ils étaient plutôt dans le côté des entreprises de service à cette industrie, donc les entreprises parapétrolières et paragazières? Quels étaient leurs niveaux de qualification, leur niveau d'ancienneté dans le secteur? Quel était leur métier, le sous-secteur, entre guillemets? Est-ce qu'ils travaillaient plutôt dans l'exploration et la production, dans le transport et le stockage, ou le raffinage de la pétrochimie? Et en fonction de tous ces paramètres, forcément, en fait, il n'y a pas la même perception de la crise du secteur, les mêmes envies de reconversion, dans les mêmes... On a essayé d'aller un peu dans ce degré de finesse, mais c'est un exercice aussi limité. Mais par exemple, les personnes qui travaillent dans le secteur parapétrolier ont une perception de la crise beaucoup plus forte. Elles ont plus envie de se reconvertir, mais elles ont moins confiance en leur entreprise pour se reconvertir en interne que chez les énergéticiens comme Total ou Engie. Donc voilà, il y a plein de paramètres en fait qui vont varier en fonction de ces critères-là et qui sont du coup extrêmement importants à prendre en compte. Et là-dessus, je vous rejoins complètement. Sur la question de votre ami qui dit que lui, il attend rien de l'État, on a posé la question effectivement de qu'est-ce qu'attendent les salariés de l'État. Et ils étaient deux tiers à dire que pour eux, l'État n'agissait pas suffisamment pour le secteur. Mais ensuite, effectivement, ils avaient des attentes très différentes envers l'État. Et il y en a certains qui disaient, une des choses essentielles, c'est qu'on a besoin d'une vision claire de quelle transition énergétique on mène. Et c'est exactement ce que vous disiez. Et après, une fois qu'ils ont dit ça, il y en a qui pensent que l'État doit agir pour forcer les entreprises à se diriger vers ça. Et il y en a qui disent que les entreprises vont s'adapter d'elles-mêmes. Ça aussi, ça change. Et du coup, pour revenir finalement à la question initiale, désolée pour les détours, mais ça me paraissait important de rebondir. Sur la question, donc, les salariés ont envie de se reconvertir, mais maintenant, quelles sont les possibilités pour eux de se reconvertir en termes de mobilité dans l'entreprise ou non, et quels sont les secteurs qui les attirent? Nous, on leur a proposé 7 secteurs dans l'industrie énergétique et ensuite des secteurs qui n'avaient rien à voir avec l'énergie. Et ce qui ressort, c'est que majoritairement, ils sont intéressés par rester dans le secteur de l'énergie. Donc, ils sont 8 sur 10 à vouloir à être intéressés par un des secteurs énergétiques. Et il y en a 20% en fait qui même n'étaient intéressés par aucun autre secteur hors du secteur énergétique. Donc ça, on voit aussi l'attachement à ce secteur-là. Les secteurs qui intéressaient le plus, les 3 qui sont arrivés en tête, c'est la géothermie, la capture et stockage de carbone et l'éolien en mer. Pour nous, ça s'explique par plusieurs raisons. D'une part, la géothermie, la capture et stockage de carbone et l'éolien en mer, ce sont les secteurs sur lesquels les entreprises du secteur en fait investissent le plus et aussi communiquent le plus. Et en plus de ça, on a observé du coup un certain croisement des compétences entre les activités historiques du secteur pétrolier et gazier et ces nouveaux, ou plus ou moins nouveaux d'ailleurs, secteurs. Par exemple, entre quand on travaille dans le forage, y a des compétences similaires aussi avec le secteur de la géothermie. Quand on travaille aussi, par exemple, dans l'exploration et la production en offshore, en mer, forcément, en fait, c'est les mêmes contraintes techniques, c'est le même environnement hostile que pour l'éolien en mer. Donc, il y a aussi ces choses-là qui se croisent. Après, évidemment, il y a des fortes variations en fonction de la profession, du domaine d'activité, est-ce qu'ils sont dans l'exploration et production, dans le transport, et en fonction des métiers, entre est-ce qu'ils sont ingénieurs, chefs de projet, ouvriers, etc. Donc tout ça, en fait, on a fait un grand tableau où on analyse vraiment, en fonction du domaine d'activité, du métier, quels sont les secteurs qui les intéressent plus ou moins. Et après, il y en a aussi beaucoup qui nous ont, dans les questions ouvertes, qui ont parlé d'autres secteurs de l'énergie qu'on n'avait pas mentionnés. Et spontanément, on mentionnait l'hydrogène, la méthanisation, l'efficacité énergétique, vraiment beaucoup de choses qui touchaient en général à la transition énergétique. Ensuite, sur les possibilités de mobilité en interne ou externe, c'était aussi quelque chose qui nous intéressait, puisque... En fait, l'État justifie souvent le fait de continuer à soutenir le secteur pétrolier gazier, notamment à l'international, par le fait qu'il faut laisser le temps aux entreprises de s'adapter par elles-mêmes. Et du coup, nous, on a posé la question aux salariés de qu'est-ce qu'ils pensaient justement de la stratégie de leur entreprise. Est-ce qu'ils avaient la sensation que l'entreprise prenait ou non le changement climatique au sérieux, et est-ce qu'ils s'imaginaient pouvoir se reconvertir en interne ou non. Là-dessus, les réponses sont très partagées. C'est-à-dire qu'il y a 43% des personnes qui pensent devoir changer d'entreprise et 48% qui pensent que c'est pas le cas. Mais encore une fois, on a des variations énormes en fait en fonction du type d'entreprise, du niveau hiérarchique. Par exemple, les personnes qui travaillent dans les entreprises parapétrolières ou paragazières, elles sont beaucoup moins confiantes dans la possibilité de se reconvertir au sein de l'entreprise que les personnes qui travaillent pour les énergéticiens comme Total ou Engie. En fonction du niveau hiérarchique aussi, on a des différences énormes. Les employés et les ouvriers, ils sont que 30% à penser pouvoir se reconvertir en interne, alors que les cadres et ingénieurs, ils sont 56% à penser pouvoir se reconvertir en interne. Donc voilà, il y a encore une fois des grandes disparités en fonction de tout un tas de critères.
Merci Anne-Hélène. Sébastien, Michel, comment vous, dans votre fédération, vous voyez justement ces aspirations à la reconversion? Est-ce que les secteurs qui sont privilégiés correspondent à ceux du rapport et aussi en termes de mobilité interne ou externe?
Alors, tout d'abord, pour répondre au collègue de l'ADEME qui a soulevé un, une question très importante tout à l'heure par rapport à l'implication des syndicats au niveau international. Il faut savoir que la CFDT est adhérente à une fédération industrielle qui s'appelle Industriol Europe, adhérente également à Industriol Monde. Et concernant la Confédération européenne des syndicats, eh bien, la présidence est à Laurent Berger, notre secrétaire général à la CFDT. Donc, c'est un sujet qui est porté, éminemment porté, au niveau de toutes ces instances. Alors, bien évidemment, il y a beaucoup de disparités de perception de ce que doit être l'emploi, déjà, lui-même, l'emploi salarié, puisque l'emploi salarié en France n'est pas considéré de la même manière que dans les pays anglo-saxons, par exemple, que par les pays nordiques, que par les pays d'Europe de l'Est. Donc, tout ça, ça pose un certain nombre de problèmes hein, pour se caler. Et plus on monte dans l'échelle mondiale, et plus c'est compliqué. Mais le travail se fait. Donc, par rapport à la question posée, il y a bien effectivement un constat partagé, notamment au niveau... De la perception des salariés, selon qu'ils soient directement liés aux grandes entreprises du monde énergétique, donc là pour le coup on parle des pétroliers et des gaziers, ou qu'elles soient liées plutôt au secteur additionnel, les paragaziers, parapétroliers comme vous les appelez, et ça c'est tout à fait explicable dans la mesure où les grandes entreprises comme Total Energy ou Engie par exemple sont capables de tracer une trajectoire claire, de dire voilà, nous on veut aller là. Prenez le cas par exemple de Total Energy. Il n'y a pas longtemps, ça s'appelait Total, c'était un groupe pétrolier, maintenant c'est un groupe multi-énergie. Patrick Pouyanné a dit, moi maintenant je veux aller vers le renouvelable, c'est ça ma trajectoire, j'utiliserai le gaz pour y arriver. Voilà. Donc si vous voulez, ça sécurise, hein. Après on en pense ce qu'on en veut, mais c'est juste pour faire le lien par rapport à la perception des salariés. Ça sécurise intellectuellement le salarié qui se dit, bon, ok, je suis là, mon secteur n'est pas d'avenir, mais voilà, moi, mon boss, mon entreprise se détermine comme ça, la cible, c'est ça, la trajectoire, c'est ça, voilà. Pour le parapétrolier, ce n'est pas la même musique, hein, parce que si derrière, la cible de l'entreprise prescriptrice, à la limite, hein, comme Total Energy, ne correspond pas au secteur d'activité de l'entreprise parapétrolière à côté, elle ne sera pas emmenée dans le bateau. Donc, ces salariés-là se posent très légitimement la question, et nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Alors, ce qui est intéressant de mener comme exercice, qui a déjà fait l'objet de beaucoup de tentatives, mais de peu de réussite finalement, c'est cette histoire de gestion des emplois et des compétences à l'échelle interprofessionnelle. Ça, c'est un vrai problème. Pour l'avoir porté, la CFDT, elle l'a porté dans les entreprises, dans les branches professionnelles, le porte encore aujourd'hui. Alors, ça change de nom, hein, GPEC, GAEC, enfin, bon, on a droit un peu. Dès qu'on fait un constat d'échec, on change de nom, comme si ça allait fonctionner mieux. Hein. Enfin, ça, on sait comment ça fonctionne. Bon, bah, aujourd'hui, ça s'appelle autrement, mais la difficulté reste la même. In fine, chaque entreprise veut garder son précaré, ne veut surtout pas étaler aux yeux des autres entreprises, ses propres difficultés à recruter, ses secteurs stratégiques, parce que ça en dirait peut-être un peu trop sur son avenir, en fait, sur sa cible dans les prochaines années. Donc, finalement, ce qui serait le plus efficace risque de n'être jamais atteint à cause de ça. Et c'est cette gestion interprofessionnelle des emplois et des compétences. Ça, c'est le vrai sujet hein, pour cette transition. Ensuite, ce qu'il faut se dire, c'est que pour les salariés de tout secteur confondu, mais là, le secteur qui nous intéresse, la perception, c'est la réalité. Voilà. C'est quand on a ça dans la tête, qu'on est persuadé que c'est ça, ça devient la réalité. Et si nous ne sommes pas capables, tous les acteurs de cette transition-là, de convaincre les salariés qui ont une perception d'être laissés pour compte, de prendre la mauvaise direction, de subir les décisions de leur employeur, eh bien, ça va être très compliqué pour les redéployer. Ça va être très compliqué. Alors, nous y travaillons, hein, bien évidemment, les partenaires sociaux savent le faire, mais ça mériterait quand même d'y passer un peu plus de temps, notamment au niveau des branches professionnelles, pour expliquer que même si on est dans des entreprises concurrentes, on est quand même dans le même secteur d'activité, Et donc, quelque part, on a un même destin. Notre destin de salarié est lié. Et ça, c'est quelque chose qui commence à rentrer, puisque structurellement, du moins à la CFDT, après les autres organisations syndicales, je me garderai bien de parler à leur place, mais on a su capter ces signaux faibles-là et s'organiser au niveau de ces deux branches professionnelles pour commencer ce travail auprès des salariés. Cet accompagnement-là est nécessaire, mais on a la chance aussi de ne pas partir de rien. Comme vous disiez tout à l'heure, il y a quand même la plupart des salariés de ces secteurs-là qui sont convaincus qu'il faut bouger, qu'il faut que ça change. Donc, on n'arrive pas en terrain conquis, mais on ne part pas non plus de zéro. Donc, ce travail-là, à nous de le continuer, je dirais, de manière collective, puisque si chacun le fait de son côté, que ce soit employeur, organisation syndicale, organisme tiers, on n'y arrivera pas. Et enfin, la toute dernière chose qui manque, la toute dernière pièce du puzzle, c'est que nous, on est convaincus à la CFDT qu'au contraire, il faut tout attendre de l'État une chose, c'est que l'État fixe une bonne fois pour toutes les règles du jeu, là où on doit aller. Comment on peut penser qu'un pays comme la France, qui a, je ne sais pas qui pourrait me corriger si je me trompe, mais qui a le deuxième ou le troisième littoral mondial, ne puisse avoir qu'une seule, éolienne en mer raccordée au réseau électrique en fonctionnement aujourd'hui. En mer du Nord, il n'y a pas loin de 5000 éoliennes, quoi. Sur le Nord européen. Et nous, on n'y arrive pas. J'ai eu la chance de suivre le parc, enfin le parc qui est toujours pas un parc d'ailleurs, d'éoliennes en mer de Eule Tréport. Mais c'est juste infernal. On est dans un pays où c'est infernal. Voilà, tout simplement parce que plus on va demander d'avis à un nombre de personnes qui ont des sensibilités aux antipodes, et moins on y arrivera. C'est-à-dire que si à un moment le gouvernement ne dit pas, comme au Portugal par exemple, voilà, mesdames et messieurs, vous avez un an pour vous mettre d'accord, et après c'est moi qui tranche. Au bout de l'année, les différentes parties prenantes se mettent d'accord. Et le Portugal est capable de construire en moins d'un an des parcs éoliens offshore. Mais nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc l'État est quand même bien central dans la réussite. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut dire la démocratie, oui, mais tout système démocratique, à un moment, à un terme, on a fini de discuter, on décide. C'est ça qu'on n'arrive pas à faire chez nous. Voilà.
Merci pour cette intervention qui nous amène à la question des freins. Qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui limite les reconversions? Céleste, est-ce que dans le cadre de votre travail au RAC, vous faites à peu près le même constat de salariés qui se sentent abandonnés à la fois par leur entreprise et par les politiques publiques dans leur démarche de reconversion?
Est-ce qu'on en fait le constat? Je pense que c'est encore des sujets qui sont assez neuf pour nous, en tout cas sous cet angle-là. On avait déjà travaillé un petit peu sur ces questions en 2017, mais c'est un sujet, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sur lequel on revient. Donc, je pense pas avoir eu suffisamment de mon côté d'échanges avec des personnes salariées dans les secteurs concernés pour pouvoir avoir ce type d'affirmation. Par contre, c'est vrai que tout ce qui est dispositif d'accompagnement à la reconversion existant, il y a quand même un constat à dresser que tous ces dispositifs, ils sont pas suffisamment appropriés et compris par les salariés, que ce soit d'ailleurs les secteurs en tension dans le cadre de la transition écologique ou pas, et que autour de la question de la reconversion professionnelle, dans tous les cas, on a vraiment un paysage assez dispersé en France avec plein d'outils et des donc tout à l'heure vous parliez de la GPEC qui change de nom, etc. Et c'est vrai qu'on a en permanence des nouveaux outils qui se créent en fonction d'un contexte qui évolue, ce qui semble aussi normal, mais qui du coup fait perdre en lisibilité pour les salariés, pour comprendre par où ils peuvent prendre le problème. Et donc je pense notamment à un dispositif qui est né pendant la pendant la crise sanitaire qui s'appelle Transition collective et qui avait sur le papier, bah, qui cochait toutes les cases, qui était là pour dire bah, vous êtes dans une entreprise qui a des difficultés, il faut réussir à vous mettre en relation au niveau d'un territoire avec une entreprise qui, pour le coup, a des métiers en tension, est en recherche de personnes à embaucher. Donc, avec cette approche très territoriale qui manque parfois d'ailleurs à des dispositifs de reconversion qui sont pensés au niveau national. Pourtant, et ça revient aussi sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure, les entreprises, elles n'ont pas forcément envie de se dévoiler en disant bah, moi, pour moi, ça va être compliqué là, donc mettez-moi en relation pour tout un tas de raisons. Donc, ce dispositif, les partenaires sociaux et l'État font le constat qu'il ne décolle pas. Donc, ça, c'est un premier sujet. C'est qu'on a des dispositifs, mais on se rend compte que par rapport à l'ampleur du challenge dont on discute depuis tout à l'heure, on n'est pas certain qu'il soit suffisamment bien pensé, bien articulé, lisible pour tout le monde pour pouvoir répondre à la question de cet accompagnement de qualité à fournir aux salariés. Et après, en parallèle, il y a quand même d'autres signaux qui sont peut-être un peu plus positifs. Et là, je pense au fonds de transition juste qui a émergé dans le cadre du Green Deal avec une approche qui est assez novatrice du côté européen en tout cas, qui est de venir dédier des enveloppes spécifiques pour des territoires qui vont être particulièrement impactés par la transition écologique en identifiant les sites industriels les plus émetteurs et en disant il faut dédier plus d'argent pour l'accompagnement à la fois du côté développement économique du territoire pour lui permettre de rebondir, mais aussi le côté accompagnement social. Et donc cet outil-là, c'est encore beaucoup trop tôt pour pouvoir en faire un bilan global parce qu'il a été adopté définitivement que cet été, à l'été 2021. Par contre, je pense que ça va être intéressant de pouvoir voir quel va être l'effet du déploiement de ces enveloppes-là spécifiques dans les territoires. Est-ce que, in fine, ça va vraiment réussir à venir combler peut-être un manque en termes de dispositifs d'accompagnement des salariés de certaines industries très polluantes. Voilà.
Et Anna-Léna, dans le rapport, vous évoquiez les attentes des salariés en matière d'accompagnement public. Est-ce que vous avez eu des propositions un peu plus concrètes de leur part? Et aussi au niveau des entreprises privées, il y a dans le rapport... parfois, on peut évoquer le court-termisme des entreprises dans lesquelles les salariés travaillent ou le manque de prise en compte de la transition. Est-ce que du côté du privé, il y a une impression qu'il y a une incapacité à prendre en compte les évolutions écologiques?
Oui. Alors, pour revenir sur les freins, avant du coup de passer sur les demandes, parce que les deux sont intrinsèquement liés, les freins qui identifient les salariés du pétrole et du gaz à la transition, ils sont de plusieurs ordres. Déjà, le constat qui est fait, c'est que la majorité des reconversions à l'heure actuelle sont le résultat de démarches individuelles. En fait, que c'est pas pensé au niveau de l'entreprise, ou du coup encore moins au niveau du secteur, mais que vraiment c'est des démarches individuelles, ce qui fait que le coût doit être supporté par les salariés. Et ça, c'est problématique parce que ça veut dire qu'il y a des salariés qui ne sont juste pas en mesure de se reconvertir. Il y en a qui se mettent à leur compte pour se reconvertir, mais ça nécessite des ressources et aussi beaucoup du réseau, en fait, des contacts, ce que tout le monde n'a pas. Un des besoins qui a vraiment été identifié, c'est des besoins de garantie de revenus, de bonnes conditions de travail, et aussi, surtout, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur le sens du travail, il y a un besoin de bonne utilisation de leurs compétences. Ce qui ressortait beaucoup des réponses écrites et aussi des entretiens qu'on a menés avec une quinzaine de salariés, c'est vraiment le besoin de rester, de vraiment valoriser les compétences qu'ils ont, parce que ce sont des hautes compétences, et qui par ailleurs peuvent servir dans certains domaines de la transition énergétique. Notamment, quelqu'un qui travaillait dans le secteur de l'extraction en offshore me disait, mais moi j'observe beaucoup ce qui se passe dans le développement de l'éolien en mer, et j'ai l'impression de voir des erreurs de débutants que nous, avec l'expérience qu'on a de ce milieu de l'offshore, on ne ferait pas. Et donc il y a aussi une frustration de ne pas voir leur expérience et leur compétences réutilisées. Parmi les autres freins, il y a évidemment le manque de formation. Mais encore une fois, en fait, c'est possible que ces formations, elles existent, mais simplement qu'elles ne soient pas bien fléchées ou bien identifiées. Et ça, c'est quelque chose qui ressortait du rapport Pariso, où en fait, le constat était que bah, finalement, il y a des formations qui existent, mais elles ne sont pas labellisées entre guillemets transition énergétique. Et en plus, souvent, il y a des acronymes incompréhensibles qui, du coup, rendent la chose assez inaccessible. Il y avait certains répondants qui nous disaient aussi qu'ils avaient repéré des formations qui les intéressaient, mais qu'ils ne savaient pas comment les faire financer, notamment que ce n'était pas éligible au compte personnel de formation, ce qui fait que du coup, ils devaient passer par leur entreprise, mais que bah, c'était mal vu de faire cette demande-là. En plus, ce n'est pas sûr que ça aboutisse. Donc, ça met les salariés aussi dans une position qui rend difficile en fait, la possibilité de vraiment rentrer dans la démarche de reconversion. Un autre frein qui va rejoindre du coup, ce que Sébastien disait tout à l'heure, je pense, c'est... on parlait du coup du cloisonnement entre les branches syndicales et du coup la difficulté de à la fois en termes très pratiques sur par exemple sur la retraite, mais aussi de passer de l'une à l'autre. Un des freins, c'est le cloisonnement entre les unités historiques des entreprises et les nouvelles unités qui sont créées. Par exemple, Total Energy. En fait, alors, du coup, je ne vais pas rentrer sur la stratégie de Total en général parce que j'aurais beaucoup de choses à dire dessus, mais quand ils parlent de diversification dans les énergies renouvelables, ce qu'ils font beaucoup, c'est racheter d'autres entreprises, des entreprises existantes et de les intégrer à Total. Mais ce qui fait qu'en fait, il y a un cloisonnement entre les salariés historiques et leurs compétences dans le secteur des énergies fossiles, mais qui pourraient s'appliquer d'une manière ou d'une autre aux énergies renouvelables, et du coup, ces nouvelles unités de travail qui ne les intègrent pas. Un des autres freins qui ressortait, c'était la défiance de la part de certains recruteurs venant de personnes qui travaillent dans le secteur du pétrole et du gaz, et notamment cette tendance, du coup, ce qui est compréhensible de la part de recruteurs aussi, mais d'aller embaucher des personnes qui ont un diplôme dans le secteur des énergies renouvelables, et pas de valoriser, du coup, les compétences des personnes qui travaillaient dans un autre secteur. Et du coup, il n'y a pas de valorisation de ces compétences-là. Et le dernier frein, c'est tout simplement que les passerelles ne sont pas forcément si évidentes. Enfin, nous, on a commencé dans les entretiens, du coup, on a cherché à identifier des premières passerelles, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, entre le forage et la géothermie, entre l'extraction et l'éolien en mer, ou même la capture et stockage de carbone. Mais en fait, les passerelles ne sont pas toujours évidentes, et surtout ne sont pas évidentes entre eux quand on est un ingénieur ultra spécialisé, par exemple, ou un ouvrier très spécialisé aussi. Bah, c'est plus difficile du coup de se reconvertir parce que ça demande une vraie reformation. Mais j'ai oublié ce que je voulais dire après. Mais c'est pas grave, je pourrais y revenir après. Oui, c'était sur les passerelles, mais... Mais encore. C'est pas grave. Du coup, pour repasser à la question des demandes qui ont été formulées envers l'État, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a 2/3 des répondants qui estiment que l'État n'agit pas suffisamment pour le secteur. Et après, du coup, ils font une liste un peu de demandes spécifiques. Mais vraiment, moi, ce qui m'a marqué, c'est que la première chose qui ressortait, et ce qui est ressorti en fait spontanément aussi là des échanges, c'est... on a besoin d'une vision claire de là où on veut aller, on a besoin d'une vision claire et stable de quelle transition énergétique on a pour pouvoir organiser derrière la transition. Et il y avait aussi une vraie analyse systémique. En fait, les premières réponses qu'il y avait, c'était « moi, ce que j'attends de l'État, c'est qu'il mette en place une vraie politique de réduction de la consommation énergétique ». Et après, ils allaient même dans le détail, du coup, de proposer quel type de dispositif ils voyaient. Enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais voilà, il y avait vraiment la demande d'une réponse systémique de l'État. Donc à la fois voilà, de mener des politiques de réduction, mais aussi du coup d'avoir une politique volontariste pour développer les nouveaux secteurs énergétiques. Et ensuite, il y a des demandes très détaillées sur des aides à la reconversion individuelle en faisant attention en particulier aux ouvriers ou aux personnes qui ont plus de difficultés à se reconvertir que des ingénieurs ou des chefs de projet. Un soutien à la reconversion des entreprises, à la fois leur outil de production, mais aussi le modèle économique. Et après, il y en avait certains qui allaient même jusqu'à demander est-ce qu'on impose des contraintes à l'industrie. Donc ça, c'était pas quelque chose qui faisait une unanimité, mais il y en a qui pensaient, voilà, il y avait un peu deux visions, ceux qui pensent que les entreprises s'adapteront d'elles-mêmes une fois qu'elles auront un objectif clair, et ceux qui pensent qu'il faut imposer des contraintes aux entreprises. Et vraiment, enfin, en fait, du coup, j'ai l'impression que ce qui ressortait, pour moi, il y a trois choses qui ressortent. La première, c'est que il faut anticiper la transition et pas attendre en fait d'être au pied du mur pour commencer à organiser les choses parce que ce sera trop tard. Donc il y a cette question d'aller évaluer les compétences qui existent actuellement dans le secteur pétrolier et gazier, celles qui sont nécessaires dans les nouveaux secteurs et comment on organise les passerelles entre chacune d'elles. Après, il y a porté attention du coup à certaines entreprises comme les entreprises parapétrolières que j'ai déjà revenu dessus. Une des demandes qu'il y a aussi, c'est de ne pas abandonner le secteur pétrolier et gazier. Et ça, c'est vraiment la formulation qui a été utilisée. Là, on parle de transitionner du coup vers des nouvelles énergies et vers un nouveau modèle de société. Mais il y a du coup, en fait, ça implique d'organiser la fin du secteur précédent et du coup d'organiser la fin du secteur pétrolier en France et notamment du raffinage, notamment des infrastructures de transport, etc. Et notamment parce que les raffineries, ce sont des infrastructures classées Seveso. Et du coup, il y a aussi un enjeu de sécurité à assurer correctement la fin de ces infrastructures-là et du coup de maintenir l'entretien sans pour autant rallonger la vie au-delà de ce qui est nécessaire. Mais voilà, il y a aussi cette dimension-là. Et du coup, les attentes envers l'État, nous, ce qu'on demande, c'est une stratégie de transition énergétique claire et qui soit discutée, qui soit débattue, associée à une politique de transition industrielle pour ce secteur-là. Et ensuite, donc ça, c'est le point de vue des Amis de la Terre, c'est que l'État a le pouvoir d'exiger des entreprises une vraie stratégie de transition. Et notamment parce que l'État dispose de leviers assez importants. Enfin, l'État est actionnaire d'un certain nombre d'entreprises du secteur pétrolier et gazier, mais aussi dans le cadre de la crise du Covid ou là potentiellement de ce qui se passe en Ukraine. En fait, que quand l'État vient au secours des entreprises dans le cadre de la crise du Covid ou d'une crise économique, quand l'État va monter au capital ou va apporter des aides à des entreprises, en fait, que ces aides-là soient associées à des conditions écologiques et sociales importantes. Donc ça, c'est aussi une de nos demandes. Et vraiment, la dernière demande qui est centrale pour nous, c'est la transition, elle doit se faire avec les travailleurs et les travailleuses. Elles doivent être impliquées dans un processus démocratique et leur voix doit être vraiment prise en compte, en fait, et pas être juste dans une démarche de consultation. En fait, on va communiquer sur la consultation, mais derrière, l'avis n'est pas réellement pris en compte. Et de ne pas aller consulter uniquement les grandes entreprises ou uniquement les instances dirigeantes. Et donc, quand je parle de grandes entreprises, c'est à la fois les énergéticiens, mais en fait, dans le secteur parapétrolier, il y a aussi des entreprises plus grandes les unes que les autres. Donc, ne pas inviter en fait que Technip Energie autour de la table, mais aller chercher aussi vraiment dans le tissu dense économique que sont les petites et moyennes entreprises qui sont aussi dans le secteur du pétrole et du gaz.
Merci beaucoup, Anna-Léna. Il nous reste assez peu de temps, donc je propose un tour de réaction rapide à Thomas et Sébastien sur les freins et comment les lever. Peut-être Thomas sur le manque de cohérence des politiques publiques.
Oui, alors pour innover un peu, parce qu'on parle toujours du problème de la stabilisation des objectifs qui ne sont pas stables, donc je retiens. Je pense qu'il y a d'ailleurs. Si les gens, il y a des décisions politiques qui remettent en cause anciens objectifs, on est quand même dans une démocratie. Donc, c'est une question. Moi, je dirais plutôt, qu'est-ce qu'on fait quand on est surpris? Et c'est peut-être ça le problème, c'est que on n'est pas outillé, on n'a pas de théorie générale du bon et du mauvais partage des anticipations. Ça manque. J'avais posé la question il y a quelques années à Emmanuelle Wargon quand elle était responsable de. Au ministère de l'Emploi, des GEFP, elle m'a dit « Ah, bonne question, mais je n'ai pas la réponse. » Donc, avis aux chercheurs, sciences politiques, sur droit, économie, qu'est-ce que c'est qu'un bon partage des anticipations, le lien avec le secret des affaires, à quel moment il faut partager ou pas les anticipations, à quel moment c'est criminel de le faire ou de ne pas le faire. Voilà, ça serait intéressant d'avoir un corpus par rapport à cette question. Après, on peut aussi se dire qu'il y a effectivement dans le processus, quand il y a des entreprises qui ferment, si elles disent trop tôt, elles disent qu'elles vont fermer dans 6 mois à leurs salariés, les salariés partent plus tôt, donc ils vont fermer encore plus vite. Donc, ce n'est pas l'intérêt des entreprises de partager à un moment donné. Donc, est-ce qu'on ne peut pas tenir compte de ce problème structurel pour dire, puisque c'est inévitable, il faut un accompagnement renforcé pour les gens qui se trouvent victimes de ce genre de choses, vous voyez. Donc, je pense qu'on peut aussi poser la, enfin, avoir des construire des conventions sociales pour dire bah, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un dispositif forcément imprévu. Et alors, par contre, par rapport à la question de la stabilisation des objectifs, je pense qu'il y a un point qui peut aider. C'est ce que j'appelle la lutte contre l'Alzheimer institutionnel, c'est-à-dire avoir la mémoire des objectifs. Nous, on a une étude à l'ADEME qui s'appelle « Marché et emploi lié à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables ». Elle a changé de nom, c'est « Marché et emploi lié à la transition écologique ». Vous pouvez la télécharger sur le site de l'ADEME. Et on veille à rappeler les objectifs des différentes filières pour comparer l'évolution des marchés par rapport aux objectifs. C'est une façon de comme on a commencé cette étude, on la réactualise chaque année, mais on l'a commencé en 2008, ça permet un petit peu d'avoir de la perspective, justement. Et je pense que ça, c'est un enjeu important, c'est d'avoir la mémoire des objectifs. Et donc, côté prospective, si on n'a pas la mémoire des exercices prospectifs antérieurs et qu'on on est beaucoup moins crédible pour la suite. Pareil, côté emploi, vous avez eu l'exercice prospectif des métiers et qualifications qui vient d'être renouvelé. Et ils avaient déjà fait, c'est un exercice qui est fait normalement tous les 5 ans. Alors, avec le Covid, ils ont décalé de 2 ans. Et ils ont fait l'évaluation de l'exercice précédent pour comparer s'ils étaient. Ils se trompaient pas trop. Donc, voilà. Donc, je pense que ça, c'est une question importante. Deuxième point, donc ça c'est pour la question GPEC. Donc c'est pour Sébastien Michel. Donc la GPEC reste encore un terme. Gestion prévisionnelle des merci. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. L'acronyme reste encore valable puisque vous aviez la semaine dernière une conférence, première conférence gouvernementale. Des compétences et des métiers avec les 3 ministres, ministre de l'Emploi, ministre de l'Éducation nationale et enseignement supérieur ensemble, avec une série de tables rondes. Nous étions avec Céleste. Et donc, la 4e table ronde, c'était avec les partenaires sociaux. Donc, la CFDT était représentée. Et le thème de cette table ronde, c'était construire une GPEC pour la France. Et ça, je pense que nous, on a besoin de ce type de projet pour pouvoir inscrire la transition écologique dans cette approche. Après, je pense que la difficulté qu'il y a eu, que j'ai entendue d'ailleurs pendant cette conférence, c'est qu'il y a quand même encore cet arrière-fond anti-intellectuel, anti-expertise, un peu cette idéologie qui dit… arrêtez avec vos trucs d'intello, de complexité, les études, ça suffit, on sait ce qu'il faut faire, il n'y a plus qu'à faire. Il y a ce côté on ne peut pas à la fois réfléchir et agir, et comme il est urgent d'agir, il ne faut pas réfléchir. Et ça, on se traîne ce boulet au pied depuis des années, ce qui fait que c'est l'Alzheimer. Beaucoup sur du côté des politiques de l'emploi, on réinvente des dispositifs qui sont existants. Vous prenez l'exemple des maisons de l'emploi, par exemple. Le plan de cohésion sociale de 2004 de Borloo a fait monter le nombre de maisons de l'emploi à 200 dans les territoires. Et puis, hop, le système est oublié. On revient là-dessus et puis en faisant oublier qu'il y avait déjà ce sujet, qu'il y en a 70 qui fonctionnent sur le territoire national. Voilà, donc je pense que on a besoin, si on veut faire avancer la transition écologique qui est très liée à la faiblesse du dialogue, la qualité du dialogue emploi interprofessionnel, on a besoin de lieux d'expertise extrêmement solides avec de la mémoire pour justement permettre de stabiliser les objectifs. Si vous n'avez pas une mémoire des difficultés rencontrées du passé au cours des 15 dernières années, vous ne faites que vous êtes dans un mouvement de brownien, quoi. Et en fait, vous croyez que vous avancez parce que vous pédalez dans votre petit cercle, mais vous n'avancez pas en réalité. Voilà, donc ça, c'était le dernier point. Ensuite, enfin non, avant-dernier, je suis un peu long, mais en termes de méthode, sur cette question moi, je trouve que c'est très bien que les acteurs de l'emploi interpellent les acteurs qui ont la main sur les marchés, les investissements, pour stabiliser les anticipations. Et donc, pour votre information, on a fait, mais dans le domaine du bâtiment, une expérimentation locale qui s'appelle le support au dialogue prospectif. on va sortir un guide pour mettre en œuvre ce genre de choses. Alors, c'est dans le domaine du bâtiment, mais la parabole peut être faite, à mon avis, à toutes les échelles et pour d'autres secteurs, avec, au lieu de faire un grand exercice prospectif, en fait, on fait faire deux exercices prospectifs. Un exercice prospectif pour le sujet environnemental. En l'occurrence, là, c'est la rénovation énergétique des logements. Mais avec un horizon de temps court, puisque les acteurs de l'emploi, au-delà de 4 ans, c'est déjà trop loin. Et puis, en miroir, un exercice prospectif sur l'évolution des emplois, des compétences du territoire. Et ensuite, on a un outil qui permet de dire si ces deux exercices sont cohérents ou pas, ce qui renvoie les acteurs à leur discussion, sans qu'on dise si c'est l'emploi qui doit se ranger sous l'environnement ou l'environnement sous l'emploi. Donc, c'est aussi ça qui est un peu nouveau dans cette approche. Je pense que cette philosophie peut intéresser pour traiter beaucoup de projets de la transition écologique.
Merci. Ce qui ressort vraiment dans toutes vos interventions, c'est l'absence d'espace de dialogue structuré qui permettent de coordonner des politiques publiques et les actions de différents acteurs. Je propose de terminer sur cette question des freins avec Sébastien Michel. Et j'aimerais vous demander quel rôle peut jouer justement des syndicats comme la CFDT dans la construction d'un dialogue à l'échelle sectorielle, mais aussi en articulation avec des objectifs de réduction des émissions nationaux pour vraiment y arriver.
La CFDT s'est dotée depuis maintenant quelques temps d'un outil formidable pour ça qui s'appelle le pacte du pouvoir de vivre. Si on continue à penser que la vie professionnelle est complètement décorrélée de la vie privée, on va dans le mur.
Excusez-moi, est-ce que vous pourriez rappeler ce qu'est le pacte de pouvoir de vivre ?
Ah oui, alors c'est en fait c'est une association de plus de 60 partenaires et de 80 propositions pour le pouvoir de vivre, c'est-à-dire qu'on est sorti du paradigme du pouvoir d'achat et on sort et on élargit le spectre de ce qu'on voudrait comme projet de société pour l'avenir. Voilà. Donc en fait, on se positionne sur l'emploi, bien évidemment, sur la transition énergétique, mais sur le logement, sur la précarité, sur tous ces items-là. On a la Fondation Abbé Pierre, par exemple, qui est avec nous sur ces sujets-là. Enfin, j'en passerai d'autres. Je vous invite à un site internet, tapez PAC du pouvoir de vivre et vous aurez l'ensemble des partenaires, l'ensemble des propositions. Et pour en revenir à ça, l'une des 90 propositions maintenant, c'est une transition écologique juste. Voilà. Donc, ça fait partie d'un projet sociétal très, très global. Mais ces propositions posent les vraies questions, c'est-à-dire complètement décorrélées, dépolluées de tout artifice politique derrière. Voilà. C'est-à-dire qu'on pose la réalité des prix, un peu comme d'ailleurs comme fait l'ADEME quand elle travaille sur un rapport. C'est-à-dire que voilà, on prend la vérité des choses, on les pose, et puis après, chacun fait ce qu'il en veut. Quoi. Bon, c'est dans cet objectif-là que la CFDT a mis en place avec divers partenaires ce pacte du pouvoir de vivre. Donc, si on ne comprend pas cette intrication entre vie privée et vie professionnelle, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, les valeurs ont changé. Comme on disait tout à l'heure, les nouvelles générations qui arrivent sur le milieu du travail sont plus intéressées par les valeurs portées par l'entreprise que par la rémunération. C'est très récent, hein, jusqu'à il y a peu, la rémunération, c'était le top décisionnel. Maintenant, ce sont les valeurs portées par l'entreprise. Donc ça, il faut qu'on l'intègre. Par rapport à cette gestion des emplois et des compétences, moi, j'en suis à mon troisième acronyme, ce n'est pas que je sois particulièrement âgé, mais j'ai connu la GAEC, la GPEC, maintenant on est à la GEPP, hein, gestion de l'emploi et des parcours professionnels. Bon, espérons que ça aille un peu plus loin que le reste. Mais pour que tous ces dispositifs-là fonctionnent, finalement, il faut qu'il y ait c'est indispensable, ces échanges de dialogue, ces espaces de dialogue. Mais pour dialoguer, il faut être deux. Et aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, nous, plus particulièrement organisation syndicale, on s'est vu furieusement attaqué avec les ordonnances travail. On a eu le dialogue social en entreprise qui a été très impacté par ces décisions qui ont été prises par le président Macron. Voilà, après, Il fait ce qu'il juge être bon, mais ça a mis le dialogue social quasiment à genoux dans beaucoup d'entreprises. Alors, ce qui est dommage, c'est que du dialogue social en entreprise découle quelque part le dialogue social dans les branches. Parce puisque ce sont les mêmes acteurs. Donc, et les branches professionnelles sont elles qui ont la vision, pas tout à fait interprofessionnelle, mais la vision qui englobe à la fois les grosses entreprises d'une branche professionnelle et toutes petites. Comme disait Annalena tout à l'heure, il y a des différences entre cette gestion, cette transformation dans les grandes entreprises et les toutes petites. Mais oui, mais les branches professionnelles ont tout leur rôle à jouer dans ce système-là. Mais elles se sont vues également affaiblir. Et ce qui est à craindre, c'est que quand on voit les différents projets, les différents candidats, ça n'aille pas spécialement en s'améliorant. Donc, il faut qu'on s'ouvre d'autant plus sur la société. Enfin, comme l'a dit à un moment Laurent Berger, le syndicalisme est mortel. Si aujourd'hui on le pratique tel qu'on le pratiquait il y a 10 ans, ça ne fonctionnera plus. Donc, nous, on a pris ce virage-là. Ça commence à produire ses effets. C'est-à-dire que maintenant, la CFDT, quand elle parle d'autre chose que du monde du travail, elle est quand même entendue. C'est plutôt de bon augure, puisque ça va nous permettre d'organiser ces espaces de travail qui commencent à faire défaut maintenant dans le monde de l'entreprise. Si on ne peut pas le faire à un endroit, il faut savoir aller se poser ailleurs et travailler, continuer à travailler et encore travailler. On n'a pas le choix. Il faut réfléchir à toutes ces questions-là. Donc, le dialogue social, c'est la base de toutes ces transformations, puisqu'il est fait entre les salariés ou du moins leurs représentants et les employeurs. Et il faut surtout le faire en bonne intelligence et sortir de ce paradigme-là qui veut qu'on ne peut pas discuter en France tant qu'on n'a pas posé le rapport de force. Ça, c'est quelque chose qui ne devrait plus exister aujourd'hui. On est capable, on devrait être capable de se parler, de se poser, de se dire la vérité des prix, sans se taper dessus, sans aller dans la rue. Et aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas ce rapport-là qui est instauré, ça, on n'arrive pas vraiment à avancer. Donc, on va continuer à travailler au moins la CFDT en ce sens. Et puis, si on peut, alors on a le groupe énergie de la CFDT qui a travaillé ce travail prospectif sur une transition juste pour une PPE sociale, qui travaille justement à rédiger des papiers de position sur les différentes énergies pour que nos équipes puissent s'en saisir et porter après leur discours politique. Mais ces travaux-là sont complètement épurés de toute considération politique à la base. Eh bien, maintenant, il faut qu'on se saisisse de tous ces sujets-là. On élargit l'accès à ce groupe à des intervenants extérieurs. Nous avons travaillé avec la Fondation Jacques Delors il y a peu, par exemple, sur ces sujets-là. On est ouvert à toute proposition en ce sens. Nous-mêmes, nous déplaçons volontiers. Alors aujourd'hui, je suis désolé, je n'ai pas pu en physique, mais c'est quand même avec toute la meilleure volonté du monde que je me présente devant vous et qu'on intègre vos travaux. Voilà, c'est dans le partage aussi. Il n'y a pas de vérité absolue. Voilà. Plus on sera de monde à travailler autour de ces sujets, et mieux on y arrivera. Voilà.
Merci beaucoup Sébastien, et merci aussi d'être intervenu à cette conférence, justement, même si vous n'avez pas pu vous déplacer. Et c'est exactement cet esprit-là de collaboration entre société civile et syndicats qu'il faut retenir pour construire ce dialogue dont on a tant besoin. On a pas mal explosé le temps, donc j'aimerais demander à Mathieu, qui s'occupe de la technique, s'il y a quelques questions auxquelles on peut répondre très rapidement.
Il y a une première question qui est de savoir, est-ce que vous avez un taux de réponse ? Et une question annexe qui vient ensuite, c'est est-ce qu'il y a des cartographies qui ont été faites, des compétences à la demande des entreprises ?
Donc je répète dans le micro, est-ce que vous avez une idée du taux de réponse ? Une cartographie des compétences dans les entreprises qui ont été interrogées.
Oui, du coup, la question du taux de réponse, c'est sur l'échantillon de l'enquête l'enquête, il y a eu 266 répondants. Dans le rapport, du coup, on détaille leur profil. En gros, il y a un tiers des personnes qui travaillaient pour des entreprises de fourniture et de production de l'énergie comme Total ou Engie, et deux tiers qui travaillaient plutôt pour les entreprises de services, donc les entreprises parapétrolières et paragazières. Je vous fais ça de tête, mais... après, enfin, voilà, il y a le détail en fait, de l'échantillon en tant que tel. Si la question du taux de réponse était combien de personnes avaient répondu par rapport à comment on l'a diffusé, c'est difficile à dire parce que on l'a diffusé de différentes manières, à la fois par des syndicats, par des réseaux sociaux, on est allé poster dans des groupes Facebook d'entreprises du secteur. Ça a été aussi le bouche à oreille. Enfin, nous, on l'a fait circuler autant que possible. Donc, c'est voilà, enfin, c'est difficile à dire. Ensuite, on a sur l'échantillon, on a voulu évaluer à quel point il était représentatif du secteur, en comparant justement avec le taux d'ouvriers par rapport au cadre, le niveau d'études générales, etc. Mais en fait, on s'est très vite heurté à la difficulté qu'il n'y a pas de statistiques uniformisées en fait de ce secteur-là. En fonction des chiffres, enfin, il y a différents découpages quand on parle du secteur pétrolier ou gazier, ou est-ce qu'on parle de du secteur parapétrolier, paragazier. Enfin, il y a vraiment, en plus, il y a une partie de la statistique du secteur pétrolier qui est soumise au secret statistique, donc en fait, auquel on n'a juste pas accès. Donc voilà, donc ça a été très difficile en fait d'évaluer la représentativité de l'échantillon. Ce qu'on peut dire néanmoins, c'est que en fait, les chiffres les plus détaillés qu'on ait, ce sont ceux de Evolen, qui est l'association des entreprises du secteur, enfin des entreprises parapétrolières et paragazières, qui maintenant se désigne comme entreprise au service des énergies. Et donc c'est eux qui ont les chiffres les plus détaillés en fait sur le secteur. Et du coup, par rapport au secteur parapétrolier, on sait que l'échantillon, il y a une surreprésentation des cadres et des ingénieurs, et ça s'explique aussi, je pense, par le fait, enfin, on a eu du mal à aller toucher les ouvriers. Je pense que ça s'explique de plein de manières différentes, mais voilà, on a eu du mal à les atteindre, et c'est pour ça en fait que pour nous, il y a aussi le rôle des syndicats là-dedans, enfin, d'aller toucher les personnes que, enfin voilà, nous, c'était vraiment en fait un... C'est pas du tout un exercice qui prétend à l'exhaustivité ou qui prétend apporter des réponses toutes faites et tout. Enfin, c'était vraiment l'idée d'engager un débat sur cette question-là. Et voilà, pour nous, c'est vraiment juste une première étape, mais on espère que ça va donner suite à d'autres choses.
Et une idée de la cartographie des compétences ?
Est-ce que cette cartographie est faite au sein des entreprises ? A priori, non. En tout cas, ce qui ressortait plutôt des échanges, c'était que c'était pas du tout fait. Enfin, de toute façon, à partir du moment où moi j'ai essayé d'aller chercher un peu du coup les stratégies publiques des entreprises, donc évidemment il y en a très peu qui sont publiques, mais du coup à partir du moment où il n'y a pas vraiment de volonté affichée ou de stratégie très détaillée, en fait même quand il y a des stratégies, souvent ce sont des objectifs plus ou moins détaillés, plus ou moins chiffrés. Il y en a qui ont des objectifs de neutralité carbone à 2050, mais on ne sait pas ce que ça veut dire en fait dans les faits. Donc à partir de là, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une vraie évaluation de la trajectoire de l'entreprise et du coup des compétences existantes ou nécessaires plus tard. Quoi.
Ah, il y a une dernière question ?
C'est très rapide. À propos du fonds de transition juste, quand on parle des entreprises polluantes, est-ce qu'on entend que celles qui émettent des gaz à effet de serre ou est-ce que les autres formes d'impact environnementaux sont incluses ?
Je crois que dans la façon dont le fonds de transition juste a été pensé, c'est seulement sur les émissions CO2. Donc les territoires qui étaient visés en France, c'était particulièrement tout ce qui est autour de Dunkerque. Et puis tout aussi le bassin dans les Bouches-du-Rhône avec notamment la centrale à charbon de Gardanne et toutes les industries qui sont présentes dans cette zone. Donc je pense que c'est uniquement les émissions CO2.
Merci beaucoup pour vos réponses et merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette table ronde. Je vous invite à consulter le rapport qui est sur le site des Amis de la Terre et de l'Institut Veblen, et vous pouvez retrouver la rediffusion de cette table ronde sur le site de l'Institut Veblen et sur sa page Facebook. Merci beaucoup et bonne soirée.
Merci à vous toutes et tous.
Merci.